Il y a 86 ans, le 14 juillet 1939, était découvert un gisement d'hydrocarbures sur la commune de Saint-Marcet. Ce sera une première en France qui durera une soixantaine d'années. Ainsi va naître l'ARAP, la Régie Autonome des Pétroles, qui plus tard prendra le nom d'Elfe-Aquitaine. Cette période qui a marqué l'histoire du commun vient d'être retracée à travers un film réalisé par Virginie Maillard et Vincent Barthes. Ce travail a duré plusieurs années, comme nous allons le voir dans un instant. Vincent Barthes, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes donc réalisateur de ce documentaire avec Virginie Maillard. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à cette période de l'histoire du Comminges ?
Alors c'était une histoire que moi je connaissais un peu parce que je suis originaire du Comminges et que j'habitais à Martre-Tolosane, tout près de Boussens, où quand j'étais enfant il y avait ce qu'on appelait une raffinerie, qui était une usine de dégazolinage. Et que donc, par mes parents, j'avais entendu parler de cette histoire de gaz de Saint-Marcet. Je n'en savais pas plus, et c'est rigolo, parce qu'en fait, depuis qu'on en a sorti ce film, ben, j'ai des gens de Martre qui m'appellent pour me dire « Ah, mais tu sais pas, mon père, il y était ». Et cette histoire-là, de gens qui viennent vers nous, qui nous disent « Ah, mais tu sais pas, mon père, mon frère, mon oncle, y était », ça nous est arrivé plein de fois depuis qu'on a commencé à travailler là-dessus, il y a maintenant une dizaine d'années.
Cela était difficile de trouver les financements pour la réalisation de ce film. Tout est parti d'ici.
Ah oui, ça, ouais. Ça a été très très compliqué parce que les gens qui doivent décider des attributions d'aide dans le documentaire, on doit demander des aides publiques et donc il y a des commissions d'experts qui attribuent ou pas les aides publiques. Et là, comme il est question de gaz et de pétrole, on s'est confronté à un mur. Les gens ne sont pas allés plus loin, n'ont pas essayé de voir quel était le propos vraiment de ce film, qui n'est bien entendu pas un éloge au pétrole. C'est l'histoire de ce territoire, qui est un territoire qui a des origines industrielles et que nous voulions mettre en avant. Mais bon, voilà, on parle de gaz et de pétrole, donc là, on s'est heurté à une sorte de censure. Et ça a été très, très, très difficile de réunir les financements. On a eu finalement les financements de la région par l'intervention directe de Carole Delga, qui, elle, est sur le territoire et qui a tout de suite compris, en fait, notre propos.
Votre démarche.
Et la démarche aussi.
Comment avez-vous abordé ces décennies ?
On s'est vite rendu compte qu'il y avait une problématique de l'oubli. De l'oubli de cette histoire. Oubli, alors bien sûr, quand on est à Toulouse, dans la métropole régionale, le Comminges, on ne le situe pas très bien, on ne voit pas du tout ce que c'est. Pour les gens à Toulouse, et en particulier dans notre milieu, le milieu du journalisme ou des auteurs, réalisateurs, producteurs de documentaires, on croit que le Comminges est une frontière sauvage. Est un endroit très à l'extérieur, quoi, de la zone métropolitaine, de cette activité économique. C'est un endroit où on ne pense qu'il n'y a que les ours qui peuvent divaguer et quelques touristes venir renforcer une économie balbutiante. Alors que voilà, le Comminges, comme pas mal de territoires de montagne, est un pays qui a connu une ère industrielle et même une ère pré-industrielle, grâce à la force des fleuves, des rivières, qui permettaient d'actionner des moulins. Les moulins, ça ne sert pas qu'à faire de la farine, ça sert à faire tourner des scieries, ça sert à faire tourner tout un tas de proto-entreprises. Et donc nous, on est un territoire industriel depuis plus de deux siècles, plus encore même. Il y a de très belles études de Minovez, la professeure à l'université de Jean Jaurès, qui s'est intéressée à cette époque industriel du Comminges. On a enrichi Toulouse.
Combien de temps avez-vous mis à tourner ce documentaire ?
Donc ça a commencé en 2015, il y a une dizaine d'années, avec des premiers entretiens, des premières interviews, des premières rencontres avec des témoins, notamment dans la région paloise, parce qu'il y avait un ancien du gaz et du pétrole qui avait commencé à écrire une histoire qui s'appelle Jean-Claude Brégaille, qui a été un peu celui qui nous a mis sur les rails de cette histoire. Et on n'a pas pu faire ce travail à ce moment-là parce que justement on avait des problèmes de financement et on a repris ce projet il y a juste 3 ans quand moi j'ai arrêté de travailler à Via Occitanie, chaîne pour laquelle j'avais créé la case documentaire. Et ce film aujourd'hui, une boucle de l'histoire, puisque ce film elle va être le dernier diffusé sur Via Occitanie, parce que Via Occitanie s'arrête.
Alors, il sera possible de le voir peut-être dans des salles de cinéma ?
Ah oui, ça c'est c'est l'essentiel pour nous. Ce film, plus que l'histoire du pétrole et du gaz au niveau national, parce que c'est une histoire nationale qu'on raconte, mais c'est aussi l'histoire du territoire. Et nous, on l'a fait pour les gens du Comminges, pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont su faire. On a tendance à nous dévaloriser. Et au niveau du territoire de Comminges, voilà, c'est quelque chose qui est dévalorisé du point de vue de la métropole. Et les gens ici, eux-mêmes, ont tendance à se dévaloriser. Et il faut retrouver une saine fierté, savoir ce que l'on a fait de beau ici, d'important. Cette histoire est vraiment très importante. Mmh. C'est l'histoire d'Elf qui a été la plus grosse entreprise en France. Elle est partie d'ici, du Comminges.
De Saint-Marseille. Alors, il n'y avait que Saint-Marseille ou d'autres communes autour de cette...
Ça a impacté l'ensemble du commun. J'ai même moi qui habite dans une maison aujourd'hui autour d'Aspé. Je me suis aperçu que... on s'est très vite aperçu que dans la cave, il y avait des carnets de foreurs, il y avait des tuyaux qui, d'évidence, ce sont des tuyaux de forage. Donc partout, dans tous les coins, même reculés, on va dire, du territoire comminjois, les gens ont participé à cette aventure industrielle. Donc c'est Saint-Marseille, c'est beaucoup Olon qui a accueilli une école de formation de foreurs. C'est bien évidemment Saint-Gaudens où s'est installé le premier siège de la Régie Autonome des Pétroles, donc l'entreprise qui a été créée dans la foulée de la découverte du gaz. Et c'est ça qui est le plus important en fait. C'est la création de la Régie Autonome du Pétrole, c'est plus important que la découverte du gisement en lui-même. Des gisements, on en a trouvé par ailleurs, celui-ci n'est pas le plus grand. Et ce qui est le plus important, c'est la création de cette entreprise qui a permis de développer une filière industrielle. Parce qu'à Saint-Gaudens, donc, il n'y a pas eu que la Régie Autonome des Pétroles, il y a aussi aujourd'hui des restes. Il y a l'entreprise Sercel qui continue 80 ans après à fabriquer des camions qui vont prospecter un peu partout dans le monde. Alors pour du pétrole, du gaz, mais aussi d'autres choses. Il y a eu une entreprise de forage qui s'appelait la Forex, qui aujourd'hui a changé de nom, qui a été avalée par Schlumberger. Ça a eu un impact extraordinaire sur l'ensemble du Comminges. Et pas que Saint-Marseille, bien évidemment. D'ailleurs, le gaz de Saint-Marseille n'est pas le gaz de Saint-Marseille. C'est le gaz de Latou.
Tout, qui est à côté, juste à côté.
Qui est juste à côté, mais alors c'est pour l'anecdote locale. Hein, Latou avait un maire socialiste qui était suppléant du candidat socialiste qui se retrouvait confronté à notre député local bien connu, Hippolyte Ducos. Et Hippolyte Ducos était radical socialiste, ce qui est radicalement opposé aux socialistes de l'époque. Ils étaient vraiment concurrents, proches idéologiquement, mais concurrents. Et donc, à Saint-Marseille, le maire était du bon côté. Lui aussi était radical socialiste. Donc, ils ont pris le parti de débaptiser le gaz de Latou. Les premiers articles, on parle du gaz de Latou. Les premiers articles que l'on voit dans la dépêche. Mais quand le ministre radical socialiste vient voir son ami député radical socialiste, il faut que ce soit en terre radical socialiste, donc à Saint-Marseille.
Alors nous reviendrons dans une seconde émission hein, sur ce gaz et ce pétrole à Saint-Marseille et autour. Revenons à votre documentaire. Vous avez réalisé des enregistrements, hein, vous disiez tout à l'heure, avec des témoins et des documents de cette époque. C'était difficile de les retrouver, aussi bien les documents papier que des films. Il y avait des films de l'époque,
oui, oui.
Des
alors,
archives.
Il y a des archives filmées. Qui à l'époque passait dans les actualités cinéma, les actualités qu'on avait au cinéma, c'était pas régional, c'était national. La découverte du gaz de Saint-Marseille, et puis surtout après à la libération, le développement de l'exploitation du gaz et du pétrole par la RAP, c'était une nouvelle retentissante d'un point de vue national. C'était la reconstruction que l'on allait pouvoir faire grâce au gaz de Saint-Marseille. Donc ça avait et c'est ce qui est très intéressant aussi, c'est ce décalage entre l'importance qu'a pu avoir ce gisement et cette Régie Autonome des Pétroles au moment où ça se passe, donc entre 39-45, et l'oubli qu'il y a aujourd'hui. Et là, ce décalage, il est très intéressant pour un documentariste, parce que c'est quand il y a ces écarts qu'il y a une tension. Et donc, c'est là qu'on peut avoir un récit qui devient intéressant.
Donc, vous avez assemblé tout ça, vous avez pu récupérer toutes ces images, ces archives.
Oui.
Auprès des cinémas comme,
Ah non, alors, non il y a des fonds d'archives. Ce que l'on connaît le mieux, c'est l'Institut national de l'audiovisuel, mais qui ne concerne
L'INA.
Que... L'INA, oui. Mais qui concerne en fait la télévision, qui a en plus incorporé un fonds d'archives d'actualité cinéma, les actualités françaises. Et puis il y a aussi, et surtout pour ce film en fait, les actualités Gaumont-Pathé, qu'on retrouve à la Cinémathèque Gaumont. Donc ils ont un site internet, on peut faire des recherches par internet. Et je dis surtout pour ce film parce qu'en fait c'était des actualités, et puis pas que des actualités, il y avait des vrais reportages et documentaires plus longs, et donc fait avec une façon que l'on a de faire pour le cinéma, avec beaucoup plus de moyens, des cadrages bien plus intéressants, et en particulier toute la période des années 50 où l'aventure des foreurs comme un joie se transporte au Sahara. Là, on a des archives extraordinaires et qui sont dans le film.
Combien de personnes avez-vous rencontré de témoignages dans ce film, à peu près?
Alors, dans le film, il y a quelque chose comme une vingtaine d'intervenants qui sont donc des acteurs de cette histoire-là. Hein. C'est pas... Donc, on fait un film sans experts, entre guillemets. Contrairement au formatage classique des documentaires à la télé, où il faut qu'on ait un expert, entre guillemets, c'est-à-dire un professeur d'université qui va avoir étudié la question et tout ça. Cette question-là dont on traite n'a pas été étudiée. Et ce que l'on voudrait, c'est que ce film suscite des envies au niveau universitaire pour qu'il y ait des thèses qui se fassent, des maîtrises qui se fassent sur cette histoire particulière du gaz de Saint-Marcet, de la régie autonome des pétroles, qui finalement ont produit cette formidable entreprise qui était Elf.
Vincent Barthes, je vous propose de nous retrouver demain pour poursuivre cet entretien. Nous verrons, entre autres, hein, comment ont été découverts ces gisements d'hydrocarbures. On a dit quelques mots, mais bon, on y reviendra plus longuement demain. Merci, à demain.
Merci, à demain.